15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue. Quand famille rime avec dispute ou conflit, à l'adolescence, les relations entre parents et enfants peuvent se dégrader. Qu'est-ce qui se joue derrière ces querelles? Comment les gérer? Des rivalités peuvent aussi exister entre frères et sœurs, teintées de jalousie, de chamaillerie. À quel moment les parents doivent-ils intervenir? Que faire en cas de discorde dans sa famille quand elle n'est pas le cocon qu'elle a pu être autrefois ou qu'elle n'a peut-être jamais été d'ailleurs? Nous allons en parler avec le docteur Lélia Benoît, pédopsychiatre à la maison des adolescents de Cochin à Paris. Et toute la semaine, nous donnons la priorité à vos questions, à vos témoignages. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 75. Et puis bien sûr, vous n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout est permis. Et dans cette émission, nous serons également en ligne avec le docteur Ali Djoukendi, pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et puis, pour terminer, nous relayerons le cri d'alarme de l'UNICEF. Dans les zones de conflit du monde entier, les attaques contre les enfants ont pris des proportions alarmantes en 2017. Nous serons en ligne pour en parler avec un responsable de l'UNICEF au Kassai, en RDC également. Docteur Lélia Benoît, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les conflits de famille les plus fréquents?
Alors, les conflits de famille les plus fréquents sont évidemment ceux entre parents et enfants, mais aussi entre frères et sœurs.
Entre frères et sœurs, effectivement, on a de nombreux auditeurs qui nous racontent ces conflits-là sur notre page Facebook. Alors, le lien familial est perçu comme très important. La famille est un lieu de repère. Comment on vit un conflit de famille?
Alors, un conflit de famille, c'est évidemment très bouleversant puisque ça concerne des personnes qui nous connaissent depuis qu'on est tout petit, avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on a passé beaucoup de temps. Et ce sont des personnes qui nous ont construites, donc c'est quand même très difficile. Ça fait souvent très très mal, les conflits de famille, notamment puisque la famille, on ne la choisit pas. Et on restera le frère ou la sœur toute sa vie et l'enfant de ses parents toute sa vie.
Et pourquoi certains de ces différences se cristallisent au moment de l'adolescence? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, à l'adolescence, on a une reconfiguration du schéma familial puisqu'on n'a plus un adulte ou deux adultes, les parents avec l'enfant, mais un enfant qui devient adolescent et qui va devenir adulte. Donc, les places changent. On n'est plus dans une position aussi asymétrique qu'entre adulte et enfant, et les parents doivent s'adapter autant que le jeune à cette nouvelle configuration.
Et à partir de quel moment on parle de conflit, puisque certaines discordes sont naturelles, sont inhérentes à toutes les familles?
Alors, le conflit, évidemment, fait partie de la construction de soi, du quotidien de la vie de famille. Ce qui pose problème, c'est si on a vraiment un blocage ou une souffrance importante de la part d'une ou de plusieurs personnes dans la famille.
Alors, il y a des sujets qui cristallisent en particulier les tensions, notamment selon un sondage réalisé en France récemment. Les sujets sources de conflits entre parents et enfants sont les écrans. Mon ado passe trop de temps derrière les écrans. Les devoirs et puis aussi les tâches ménagères, ce sont les moments où on peut avoir des conflits.
Alors, en effet, ce sont des conflits qui sont typiques de notre société contemporaine, avec effectivement, pour les écrans, l'occasion de devoir poser des limites pour les parents, puisque les écrans, c'est quand même très tentant, on a très envie d'y être. Et donc, tout comme pour nous, quand on était plus petits, c'était peut-être le temps passé devant la télé et le moment où il fallait éteindre la télé pour retourner dans l'espace collectif. Là, la question du moment où on éteint les écrans, où on va se coucher,
Internet
devient une source de conflit importante et une occasion pour les parents d'exprimer leur autorité et de donner des limites, un cadre à l'enfant.
Alors, on va parler des relations difficiles entre frères et sœurs. Nous sommes en ligne avec une auditrice, Leïla, à Guelma, en Algérie. Bonjour Leïla.
Bonjour.
On vous écoute, Leïla.
Bon, moi, par où je dois commencer? De toute façon, nous étions une bonne famille, une famille très, très unie. surtout du vivant de mon père, parce qu'il avait une certaine autorité, et puis il avait beaucoup plus d'affection pour nous. Il était très très affectif parce que c'était un enfant unique lui aussi. Donc nous lui représentions tout. Et il avait fait tout pour nous réunir.
Vous êtes 8 frères et sœurs dans la famille, c'est ça?
Oui, c'est une fratrie de 8. Je suis la troisième. Moi, je suis presque l'aînée par rapport aux autres. J'étais toujours la conseillère pour tout le monde. J'aidais tout le monde. À chaque fois qu'il y a un problème, un divorce, un mariage, c'est toujours moi qui gère. Et puis, il y a un certain temps, ça fait à peu près 4 ans, il y a une tension très, très sévère, si vous voulez. Je ne reçois aucune revisite. Je ne suis pas invitée. Et puis, il y a des conflits en ce qui concerne un problème d'appartement, un problème d'héritage. Vous voyez, donc, c'est plus comme avant. Et puis, les belles-sœurs, quand les belles-sœurs interviennent, vous savez très bien, moi, je suis instruite et je sais ce que c'est que quand un frère est marié, il est libre de chez lui, ainsi que sa femme, d'agir à leur manière. Mais il y a des moments où on vous porte préjudice, c'est-à-dire qu'on vous crée des problèmes. Mes frères me consultent à chaque fois, moi, je les oriente. Il y a quelques-unes qui n'aiment pas ça. Mmh. Et puis, j'ai une sœur aussi qui est plus jeune que moi. C'était ma... Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que je la...
Votre protégée ?
Sous mon aile. L'avais sous mon aile. Il y a 10 ans de différence entre nous.
Mmh.
Moi, je travaillais, elle étudiait. Je l'ai aidé, j'ai aidé ses enfants quand elle s'est mariée et tout ça. Et puis, d'un seul coup, il n'y a plus de relation. Moi, j'essaye d'aller, je fais des concessions, j'essaye d'aller chez elle, de passer l'éponge. Mais vraiment, ils ont quelque chose dans leur cœur que je ne peux pas atteindre pour atténuer cette situation vraiment désolante.
Et vous en voulez à vos frères et puis à vos sœurs pour cette situation, le fait que votre famille se soit délitée?
Il y a des moments où je leur en veux énormément. Il y a des moments où je dis, chacun est de chez lui, je m'en fous. Mm. Mais vous savez, c'est des personnes avec qui on a grandi. Il y a une relation très, très étroite entre nous. De la voir se casser comme ça entre nous, et puis il n'y a plus de relation. C'est-à-dire, il n'y a plus de... On se voit rarement, si vous voulez.
Alors que jusque-là, jusqu'à il y a 4 ans, tout allait bien.
Oui, il y a 4 ans, tout allait bien. Mais depuis 2012, ça a dégénéré énormément.
Notamment à cause des questions, de questions d'héritage et puis à cause de vos belles-sœurs, c'est ce que vous dites. Merci Leïla pour ce témoignage. Docteur Leïla Benoît, là on voit effectivement des relations entre frères et sœurs qui se dégradent à l'âge adulte en fait.
Oui, et c'est très fréquent, notamment au moment du deuil d'un des parents, surtout si c'est un des parents qui avait une place prépondérante dans la famille et qui dirigeait un petit peu le fonctionnement de la famille. Là, c'est le cas avec ce père qui était visiblement très protecteur et qui assurait la cohésion, en fait, par son autorité également.
Et puis, on voit qu'il y a eu des soucis d'héritage aussi, de différents à ce sujet, et puis les belles-sœurs.
Tout à fait. Alors l'héritage, ça peut être un symbole aussi, c'est-à-dire que au moment où le parent meurt, l'héritage vient symboliser parfois la dette affective que ressentent certains frères et sœurs. On peut avoir l'impression que quand on était petit, on était moins aimé que ses frères et sœurs, et à ce moment-là, on peut aller réclamer cet héritage en disant « voilà, tu as toujours eu plus que moi, maintenant c'est à moi de récupérer ce qui reste ».
Des jalousies tout d'un coup surviennent en fait.
Exactement. Des jalousies qui existaient sans doute déjà avant, mais qui n'étaient pas exprimées puisque la présence du parent vivant empêchait le fait d'exprimer des désaccords.
Et la question des belles-sœurs, comment faire quand on a le sentiment d'être rejeté par les femmes de ses frères?
Alors, la question des belles-sœurs, c'est encore plus problématique puisque c'est un autre membre de la famille, peut-être une famille élargie encore. Mais pour en rester à la question entre les parents et les frères et sœurs, le deuil, c'est aussi un moment de grande souffrance. Quand on perd son parent, on peut avoir de la tristesse, de la colère, et c'est très fréquent d'avoir envie de rejeter cette colère sur ceux qui sont à côté, notamment sur les frères et sœurs, en se disant « mais voilà, vous êtes là, mais finalement vous ne me servez à rien, moi ce que j'aurais aimé c'est que mon parent soit encore vivant ». Donc il y a aussi de la tristesse simplement qui est parfois difficile à assumer et qui rejaillit sur les relations entre frères et sœurs.
Alors comment gérer les relations entre frères et sœurs quand on est soi-même parent? On va écouter un auditeur, Malolo à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Malolo.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à tous les auditeurs. Moi, mon problème, il est un peu différent, c'est vrai. J'ai deux garçons pleins de vie, le plus grand à 5 ans et demi et le plus petit à 3 ans. Et eux, ils sont régulièrement en conflit pour une question de jouets. À cet âge-là, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'ils ont tout le temps besoin des mêmes jouets au même moment. Donc, ça pose problème. Il faut parfois faire en sorte que le plus grand fasse la concession et que le plus petit puisse se calmer. Et pour pallier à ça, on s'est parfois permis d'acheter les mêmes jouets, comme on fait à des jumeaux ici en Afrique. Pareil, même jouet, même modèle, même couleur, pour qu'ils n'aient plus à se disputer.
En deux exemplaires.
Sauf que quelquefois, dans ces cas-là, il y a un qui veut les deux pour faire une course de voiture, et du coup, ça retombe. Donc, c'est pas
ça ne résout rien.
De trouver la bonne solution, quoi, voilà.
Mais bon. Donc, c'est surtout pour l'instant autour des jouets.
Voilà, ils ne vont pas jusqu'à se bagarrer ou à se blesser, mais bon, c'est pas toujours évident en tant que père de trouver la bonne solution dans ce genre de cas.
Oui, et puis ils en viennent aux mains, vous le dites, parfois ils peuvent se bagarrer.
Voilà, c'est pas encore à l'état très grave, mais oui, quelquefois pour ça, ils peuvent crier, s'attraper, c'est pas très très drôle, mais bon, c'est une réalité malheureusement.
Et vous posez la question de comment intervenir en fait en tant que parent?
Voilà, comment intervenir? Parce que régulièrement, on dit au plus grand de comprendre que l'autre est petit, il pleure, pour qu'il ne pleure pas, il faut qu'on lui donne les jouets. Sauf qu'on ne veut pas que le petit s'habitue et qu'il pense que tout le temps, chaque fois qu'il va pleurer, on va forcément lui faire cette concession. Donc c'est cet équilibre à trouver qui est pas toujours évident.
Voilà. Merci Malolo pour ce témoignage. Docteur Lélia Benoît, comment expliquer ces rivalités à un si jeune âge? Prosaïque pour l'instant à cause de jouets, mais néanmoins elles existent.
Oui, alors on voit bien que le jouet n'est qu'un exemple, hein, un prétexte, puisque finalement ce qui est le plus important, c'est d'être en rivalité entre frères et notamment de rechercher l'attention des parents. Donc on voit bien que quand on achète deux fois le même jouet, finalement le conflit se déplace sur autre chose, on trouve une autre bonne raison de se chamailler. Néanmoins, le conflit entre frères et sœurs, c'est aussi un moment pour apprendre à s'auto-réguler entre enfants. Les Danois, notamment, expliquent beaucoup dans leur éducation des enfants que c'est important de laisser un temps aux jeunes pour se chamailler entre eux et pour trouver eux-mêmes des solutions.
Donc on laisse faire.
Alors, on ne laisse pas faire totalement, mais en tout cas, on laisse quelques instants pour soi-même en tant qu'adulte, pour se laisser le temps d'observer ce qui se passe, et pour laisser peut-être aux enfants une petite chance de trouver la solution par eux-mêmes, notamment d'apprendre à s'excuser, à pardonner, à ne pas être rancunier, à prêter. Voilà, si on arrive d'emblée, avant même qu'ils aient eu le temps d'échanger, on va pas leur permettre de prendre du recul, d'apprendre à être mieux avec les autres. Toutefois, ce qui est important quand il y a trop de conflits, que ça dégénère, que on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à se calmer par eux-mêmes, c'est
même
d'intervenir.
À un âge aussi jeune.
Oui, bien sûr, il faut intervenir, c'est le rôle des parents aussi. Et le plus important pour les enfants, c'est de voir que la punition est juste. Et alors, ils diront toujours « oui, mais tu as puni plus mon frère que moi, c'est injuste ». Mais finalement, ce qui est juste, quand on fait trop de conflits et qu'on fait trop de désordre, c'est d'être puni. Et là, le plus important, c'est que les parents soient d'accord et non pas que le conflit entre enfants dégénère dans un conflit entre parents. Ça, c'est le
primaire. Ça peut être le cas.
Oui, ça peut être le cas. Parfois, le père et la mère qui ne sont pas d'accord sur qui avait raison, qui avait tort. Et c'est peut-être ça qui est le plus problématique pour les enfants, de voir que les adultes peuvent se disputer à cause d'eux. Au pire des cas, j'ai envie de dire, si les deux se sont trop chamaillés, eh bien les deux sont punis. Peut-être que c'est injuste, mais au moins, entre adultes, on se débrouille pour être en paix.
Alors on a Mariam qui est à Pointe-Noire aussi et qui nous écrit « Ma fille de 10 ans et son frère qui a 7 ans se disputent sans arrêt, parfois pour un rien. Est-ce que c'est normal à leur âge? Et en tant que mère, comment je peux apaiser leur rapport ?» Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Alors déjà que les conflits entre frères et sœurs sont inévitables et qui permettent aux enfants dans la fratrie de construire chacun leur place et de négocier leur espace. Ils sont obligés de partager tout, leur maison, leurs parents, un certain nombre de jeux, mais c'est aussi l'occasion de transmettre finalement au travers de ces conflits, des valeurs de la famille. Donc la bienveillance, la cohésion entre frères et sœurs. On a bien entendu tout à l'heure que c'était le père qui favorisait la cohésion entre frères et sœurs et le respect d'autrui. Donc ces conflits sont des occasions de rappeler les règles de la famille. Même si les enfants désobéissent un petit peu et continuent à chamailler, néanmoins, ils entendent quand même qu'il existe une règle importante qui est le respect et le partage.
Alors les relations peuvent aussi être compliquées entre parents et enfants. Nous sommes en ligne avec Alpha Oumar à Conakry, en Guinée. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok, du coup, moi c'est Alpha Oumar. Ça fait quelques années, au moins une année et quelques, que je ne suis pas d'accord avec mon père. J'ai des relations tendues avec les parents, mais particulièrement avec papa, pour des futilités, je veux dire. Parce qu'au début, je voulais être footballeur. J'ai essayé de voyager pour faire une carrière, mais j'ai appris que j'étais drépanocytaire. Je ne pouvais pas faire une carrière professionnelle. Il m'a demandé de revenir et de reprendre les cours. Je suis revenu, j'ai fait le bac l'année passée. Mais il m'avait promis qu'après le bac, je devais voyager pour faire des études, pour faire une carrière aussi dans en droit international. Mais il y a eu quelque chose, il ne voulait plus cette année et c'est devenu compliqué. On ne se parle plus maintenant à cause de ça, à cause de ça aussi.
Il n'a pas voulu vous payer en fait ce voyage et ses études à l'étranger.
Exact. Mais c'était un pacte. Avant de revenir, il m'avait promis que, arrivé ici, qu'il allait faire quelque chose. Je suis venu, j'ai fait le bac et il ne veut plus. Je ne sais pas s'il ne veut plus. Sûrement, peut-être qu'il y a des complications, mais c'était une promesse.
Il a changé d'avis. Il a rompu cette promesse.
Il a rompu cette promesse. Maintenant, c'est devenu compliqué. Peut-être je suis le fautif, je ne sais pas exact. Mais je me dis que c'est à cause de lui, je vais pas suivre des études, quelque chose comme ça. Mais du coup, je sais, ça devient compliqué parce que faire une année et quelques sans parler avec papa et les autres, quelques-uns de mes frères pensent que je suis le fautif, ils ne me parlent plus aussi. C'est comme ça, ça fait quelques temps, c'est comme ça.
Merci Alpha Oumar pour ce témoignage. Vous avez 19 ans, vous êtes encore jeune et donc vous ne parlez plus à votre père depuis près d'un an. Docteur Lélia Benoît, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Alpha Oumar ?
Alors déjà, on voit que ce conflit le fait beaucoup souffrir, hein, que c'est quelque chose qui le peine beaucoup. Et effectivement, on peut avoir beaucoup de tristesse à devoir contredire ses parents ou être en désaccord avec eux. Ce d'autant que, visiblement, ses frères lui donnent tort. Là, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'effectivement, Alpha Oumar a grandi. Maintenant, il est adulte, comme son père. Et il fait certains choix pour lui. Il s'autonomise. Donc le plus important, c'est de pouvoir expliquer à son père qu'il a compris ses raisons, qu'il l'entend, qu'il l'écoute, qu'il le respecte, mais que même s'il l'écoute totalement, peut-être qu'en définitive, son choix sera différent, puisque c'est un choix d'adulte. Pour certains pères, c'est possible de l'entendre. Pour d'autres, c'est plus difficile. Notamment parce que quand on est parent, on a parfois une image idéale de son enfant. On aimerait qu'il devienne footballeur, avocat, je ne sais pas.
Le façonner à son image, en fait.
Exactement. On voudrait que nos enfants fassent ce que nous n'avons pas fait. On aimerait qu'ils poursuivent nos rêves. Et donc, quand nos enfants, finalement, nous disent « Non, moi, j'aimerais faire autre chose », c'est parfois difficile pour les parents de se rendre compte que l'enfant qui a grandi, qui est devenu un adulte, est une personne à part entière et qu'elle a ses envies, ses rêves et qu'il faut les respecter.
C'est difficile à accepter, mais mieux vaut en discuter, en fait,
Tout à fait.
À deux. Docteur Lélia Benoît, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'information sur RFI. Vous n'hésitez pas à nous appeler, à continuer de nous appeler au 33 1 84 22 75 75. 33 1 84 22 75 75 pour parler d'éventuels conflits de famille que vous rencontrez. Quel impact ont-ils pu avoir sur nous, vous nous racontez si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de questions pour notre invité. À tout de suite dans 3 minutes sur RFI.
Priorité santé. Charlie Dupiot.
Bienvenue si vous nous rejoignez au cœur des conflits familiaux aujourd'hui dans Priorité Santé, quand les relations avec nos parents ou avec nos enfants adolescents pèsent sur notre vie, quand on ne s'entend pas avec son frère ou avec sa sœur, pourquoi certaines relations familiales paraissent-elles si compliquées et puis comment réagir, comment apaiser des tensions parfois ancrées depuis longtemps et liées à des blessures d'enfance. Pour répondre à toutes ces questions et d'autres encore, nous sommes en compagnie du docteur Lélia Benoît, pédopsychiatre à la Maison des adolescents de Cochin à Paris. Vous nous appelez si vous voulez participer à l'émission. Un numéro pour cela, le 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 65 75, pardon. Et nous sommes en ligne tout de suite avec le docteur Ali Djoukendi. Bonjour. Docteur Ali Djoukendi. La ligne...
Oui,
ah oui, c'est bon, la ligne fonctionne. Vous êtes pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa,
oui,
en RDC. Bienvenue dans l'émission. Alors, quel conflit de famille êtes-vous amené à traiter dans votre centre? Alors, la ligne a du mal manifestement à fonctionner. On va essayer de vous prendre un petit peu plus tard dans l'émission. Docteur Lélia Benoît, certains auditeurs qui ont des petits frères et des petites sœurs se demandent s'ils peuvent jouer le rôle de parents avec eux.
Oui, il est parfois tentant quand on est l'aîné de vouloir donner des conseils aux plus petits et de trouver même que nos parents sont beaucoup trop laxistes avec les plus petits alors qu'avec nous ils étaient sévères quand on était petit. Donc on a beaucoup de frères et sœurs aînés qui ont envie de prendre la place des parents et ça c'est très important à remarquer puisque finalement ce n'est pas leur rôle. Leur rôle c'est celui d'être grand frère ou grande sœur. Et dans ce cas, la thérapie familiale peut être une bonne manière d'en parler, c'est-à-dire de permettre aux parents de se ressaisir et de se responsabiliser à nouveau pour l'éducation des petits.
Et de ne pas laisser l'aîné prendre le contrôle en fait de la fratrie.
Exactement, et ce d'autant que les plus petits n'en seraient pas d'accord. Donc c'est important de laisser aussi à l'aîné la possibilité d'être un enfant comme les autres. Et parfois, certains aînés, une fois qu'ils ont arrêté de vouloir s'occuper de l'éducation des plus petits, se sentent tout de même les épaules plus légères pour s'occuper d'eux et de leur avenir.
Et une thérapie familiale, à quoi ça peut servir ?
Alors, une thérapie familiale, ça permet de réunir les différents membres de la famille et de se rendre compte que chacun joue un rôle comme des acteurs hein, autour d'une pièce de théâtre.
Donc, on se rencontre avec un psychologue.
Exactement, tout à fait. Alors, on se rencontre avec un ou deux psychologues ou psychiatres. Et l'idée, c'est de réfléchir à comment ça se passe à la maison d'habitude, quand on discute, quels sont les problèmes habituels et quelle place prend chacun. Par exemple, la famille va raconter une dispute habituelle entre le parent et l'enfant ou entre les deux parents et dire, voilà, quand je dis ça à ma femme, alors elle me répond si, ça m'énerve, donc je réponds ça et finalement ça dégénère. Et donc, parler de ce schéma qui se répète à chaque fois, puisque à chaque fois, chacun prend le même rôle, ça permet d'identifier les rôles de chacun et de pouvoir les modifier.
Alors nous avons retrouvé le docteur Ali Djoukendi. Rebonjour. Si la ligne nous le permet. Parfait. Alors vous êtes donc pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa en RDC. Alors quel conflit de famille est-ce que vous traitez, vous, le plus souvent dans votre centre ?
Il est vrai que le problème des conflits familiales est inhérent à la vie de chacun. Mais il se pose un grand problème dans notre contexte du fait que ces conflits ne sont pas généralement apportés auprès des médecins dans des centres psychiatriques. Et ces conflits sont souvent gérés dans des églises de réveil, puisque dans ces églises, il y a quand même des groupes de prise en charge familiale, chrétienne, ainsi de suite, où on accompagne les couples et même les enfants. Si bien que les cas que nous recevons, les rares cas que nous recevons dans nos structures hospitalières, ce sont des cas où le conflit a généré un trouble des comportements que les parents ne sauront pas gérer et on les amène à l'hôpital dans ce contexte-là.
Et comment les conflits de famille sont perçus au sein de la société congolaise ?
Les conflits des familles, en général, forment des problèmes de santé, des problèmes de santé mentale. C'est plus la sorcellerie ou les mauvais sorts qu'on a gérés, parce que les interactions et les troubles de sensibilité interpersonnelle font que les parents, ils restent dans leur position au-dessus et les enfants doivent respecter leur position en dessous, et les relations restant verticales des parents vers les enfants, alors qu'à l'adolescence, cette relation doit non plus être verticale mais horizontale. Et ce passage-là pose beaucoup de problèmes. À telle enseigne que l'enfant ne peut, par exemple, pas dire non à son père. Dès qu'il le dit, on attribue cela à un mauvais sort, à la sorcellerie et consorts.
En fait, c'est difficile de remettre en question l'autorité de son parent, même quand on est adolescent.
Oui.
Quand on a envie de le faire.
Oui,
en fait.
cela est lié au poids culturel. Cela est lié au poids culturel. La relation reste verticale. Vous sentez que parfois, le père, il reste père, même quand l'enfant est devenu déjà adulte. Et malheureusement, ça ne permet pas aux enfants d'avoir une certaine autonomie dans leur relation, même dans leur vie de couple ailleurs. Vous sentez parfois dans une vie de couple des enfants déjà grandis, mariés, mais vous sentez l'implication des parents dans leur vie quotidienne. Et ça pose problème dans des interactions à ces moments-là.
Et quels conseils vous pouvez donner à ces parents-là qui s'inquiètent de la relation avec leurs adolescents?
Le problème, là, se situe dans ce qu'on appelle le processus de socialisation et de la guidance parentale, qui sont presque inexistants chez nous. Vous savez, dans la socialisation, le premier instance de socialisation, c'est la famille. Et on ne donne que ce que l'on a reçu, l'éducation qu'on aura reçue de ses parents. Parce que chez nous, le principe est que parfois, on devient parent par hasard. On ne t'apprend pas à être un bon parent, on n'apprend jamais à une femme. Quel est le rôle que la mère doit jouer dans le développement de son enfant? Quel est le rôle que le père doit jouer? Et quels sont les rôles, les assignations de rôles entre les enfants, les interactions? Et chez nous, ça pose un réel problème pour pouvoir identifier ça. Et nous avons, dans notre équipe, nous utilisons le triangle de Kaufman pour pouvoir montrer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent identifier par eux-mêmes les conflits entre les membres.
Alors, le triangle de Kaufman, qu'est-ce que c'est? Vous nous expliquez?
Le triangle de Kaufman, comme un triangle qui a trois sommets. Un sommet est occupé par le persécuteur, l'autre sommet par le sauveur et le troisième par la victime. Et on pose dans une interaction familiale, on pose à chacun, par rapport à l'acte qu'il aura posé, quel est le pôle qu'il aurait occupé en ce moment-là. Mmh. On se rend compte que on ne peut pas rester dans un pôle éternellement. On change de pôle. Quand on est sauveur, on a besoin d'une victime qu'on doit sauver. Et quand on sauve, parfois la victime en a marre, la victime peut devenir persécutaire face à son sauveur, et ainsi de suite. Et la question qu'on pose à la fin aux membres de la famille, quel est le pôle où vous vous sentez le plus à l'aise? Et généralement, les gens ont tendance à choisir le sauveur. Mais à la fin, ils sont un peu déçus, et quand nous leur disons, l'idéal, c'est de ne pas entrer dans ce triangle-là, parce que c'est un triangle infernal. Lorsqu'on résout dans un triangle, quand on change de pôle, immédiatement, un autre triangle se crée. Et à ce moment-là, chaque fois qu'on se retrouve dans une relation, dans les relations interpersonnelles, on a l'impression qu'on occupe un sommet du triangle, immédiatement on doit se ressaisir pour se dire que non, on est dans une situation inconfortable.
Et quel message est-ce que vous aimeriez faire passer sur ce sujet, docteur Aline Joukandi?
Le message est que le conflit est inhérent à la vie, c'est-à-dire que toute notre vie est émaillée des conflits. À telle enseigne que l'adaptation psychologique ou psychosociale d'un individu résulte de la résolution des conflits, comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, que l'homme se découvre quand il se mesure à un obstacle.
Donc ces conflits peuvent être positifs.
Le poids culturel qui exige à ce que ces relations parents-enfants restent verticales, ad vitam, alors qu'à l'âge de ces relations devraient devenir verticales,
horizontales,
afin de permettre à l'enfant... horizontal, mais merci, afin de permettre à l'enfant de s'identifier et d'avoir un estime de soi fort.
Merci beaucoup, docteur Aline Joukandi. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre au Centre de neuropsychopathologie de l'Université de Kinshasa.
Priorité santé sur RFI.
Et nous sommes en ligne tout de suite avec une auditrice, Camille, à Barcelone. Bonjour Camille.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Écoutez, moi ce qui m'intéressait, c'est la position de votre spécialiste sur ce qui est le rôle de la belle-mère, beau-père quand naît l'adolescence et qu'en fait, les parents renvoient l'adolescent au beau-père, à la belle-mère et que tout doit se recomposer. Et c'est, pour moi, ça a été une période très, très complexe parce que j'ai connu Ona, elle avait 3 ans. C'était facile parce que l'amour maternel, quand les enfants sont petits, c'est assez inné. Mais quand ils deviennent adolescents, on se sent beaucoup loin, beaucoup plus loin. Et comment faire avec ce rôle qui, finalement, est celui de celui qui est ajouté, non, le beau-père et la belle-mère, alors que les relations avec l'enfant ont évolué.
Ça a été compliqué donc avec cette jeune fille qui est maintenant une adolescente, hein, qui a 13 ans aujourd'hui.
Absolument, on a 13 ans. Maintenant, c'est un moment un peu plus calme, mais ça a été terrible puisque la psychologue Donna m'a dit « mais c'est pas votre rôle, vous avez été là, vous êtes là, c'est très bien, maintenant vous avez un enfant de 5 ans qui est arrivé, laissez donc Ona dans ses rapports avec son père et sa mère. » Et les parents sont assez démissionnaires au niveau de son éducation, donc elle vient me chercher. Cela dit, je me suis rendu compte que au couper le terrain, c'était pas une bonne chose, qu'elle avait vraiment besoin de la relation conflictuelle ou non avec ses propres parents, et qu'en étant au milieu, c'était pas une bonne chose. Donc aujourd'hui, on est plus en plus de familles recomposées, ça fait maintenant longtemps, et on parle peu de notre position à nous, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe quand l'amour au tout petit enfant est changé avec une relation à un ado et que celui-ci a des parents biologiques dont il a besoin. C'est très complexe, je trouve, et moi, j'étais pas armée et on se retrouve pas dans les livres qu'on publie. Donc, ça m'intéresse de connaître la position de votre spécialiste, en fait.
Merci Camille pour ce témoignage. Et puis cette question, docteur Lélia Benoît, effectivement, être parent, on l'apprend sur le tas, être beau-parent, c'était aussi compliqué.
Oui, c'est une question qui est très actuelle et qui me fait penser aux auditeurs des pays d'Afrique, puisque dans les sociétés traditionnelles en Afrique, on n'a pas une famille nucléaire avec seulement les deux parents biologiques et l'enfant, mais on a une famille où une multitude d'adultes existent autour de l'enfant et sont légitimes pour l'élever. C'est-à-dire qu'une remarque qui sera faite par un oncle, une tante, un cousin de cousin, sera à entendre par l'enfant comme une remarque d'adulte et donc à respecter. Dans des sociétés plus occidentales comme en France à l'heure actuelle, on a finalement un retour vers cette communauté d'adultes puisqu'on peut avoir des beaux-parents des deux côtés, des divorces, des demi-frères, etc. Mais finalement, les beaux-parents ne sont pas crédités d'une légitimité au même titre que les parents biologiques, c'est-à-dire qu'on aimerait bien qu'ils soient là quand c'est pratique, et finalement, quand on se dispute ou quand on est en désaccord, on leur dit « oui, mais de toute manière, ce n'est pas toi sa mère ». Donc, c'est important entre adultes, avec les parents biologiques et la belle-mère, de s'entendre sur la légitimité, à savoir, c'est une adulte qui participe à ton éducation parce qu'elle est là à la maison, et donc tu lui dois l'obéissance. Et c'est vrai que quand l'enfant devient adolescent, qui crée des conflits, ça suscite des conflits entre les adultes aussi, et même entre adultes, on peut avoir tendance à rejeter la faute sur les autres en disant, oui, mais c'est parce que la belle-mère s'en occupe trop ou pas assez, ou c'est parce que les parents sont irresponsables. Donc là, ce qui est le plus important pour l'adolescent, et parce que c'est lui en définitive qui est le plus important puisqu'il est en train de se construire en tant qu'adulte, c'est de sentir que les parents et les adultes réussissent à s'entendre. Donc, quelque part, il faut pouvoir rester disponible, même s'il nous rejette un petit peu, et réussir en quelque sorte à faire ce qu'on peut, c'est-à-dire à au moins lui transmettre certaines valeurs en lui disant, voilà, certes, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père, mais sache que c'est en désaccord, c'est en contradiction avec les valeurs qui sont les miennes, ce que tu fais. Donc, je te le dis.
Donc, Camille, notre auditrice, doit prendre son mal en patience, attendre peut-être que sa belle-fille grandisse pour que les relations s'apaisent.
Faire ce qu'elle peut et ne pas culpabiliser. C'est-à-dire, elle fait déjà son maximum. C'est quelque chose qu'on doit apprendre quand on est adulte et qu'on s'occupe d'adolescents, c'est qu'on a un devoir de transmission. On doit pouvoir dire là où est le bien, là où est le mal, en tout cas en fonction de nos valeurs. Et à un moment donné, on doit faire le crédit aussi aux jeunes qui va le réussir à comprendre par lui-même, qui va réussir à grandir, à s'autonomiser et à trouver son chemin qui sera le bon.
On a aussi la question là de la séparation du couple qui peut peser sur les enfants, qui peut peser dans les relations avec les enfants.
Tout à fait. Alors il y a beaucoup de couples qui se séparent. Ce qui est important, je dirais même avant même la séparation, c'est les disputes au sein du foyer entre parents. Il y a un excellent livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle qui explique de quelle manière les conflits entre parents peuvent dégénérer ou au sein du couple. Et ça, c'est des choses qui sont très compliquées pour les enfants à comprendre et qui sont même parfois compliquées pour les parents. C'est-à-dire que quand on commence une discussion, finalement, ça ravive une blessure, un peu un traumatisme des discussions précédentes et des conflits. Et donc, on peut en arriver à ce stade où les partenaires se détestent, c'est-à-dire quand l'un hausse un sourcil, prend son inspiration pour parler, l'autre se dit « Ouh là là, il va encore me faire le reproche habituel, je n'ai pas envie de l'entendre ». C'est-à-dire que on a un effet de réflexe qui vient raviver l'angoisse des dernières disputes. C'est comme une cicatrice émotionnelle, en quelque sorte. Et ça, c'est très problématique, puisque ça empêche le couple d'avancer dans la discussion, ou les parents, même quand ils sont séparés. C'est-à-dire, avant même de commencer à parler, on est déjà sur le qui-vive. Et donc ça, c'est très important, et Daniel Goleman l'explique très très bien. Il faut réussir à désamorcer cet effet réflexe émotionnel, puisque sinon, on est tout de suite très stressé, beaucoup trop pour pouvoir parler, et on n'arrive plus à faire avancer les choses.
Alors nous sommes en ligne avec Davy, qui est à Pointe-Noire. Bonjour Davy.
Oui, bonjour, et bonjour à tous les auditeurs des RFI, je souhaite le meilleur vœu.
Meilleur vœu également, on vous écoute, David.
Moi et ma petite sœur, ça chambre toujours, parce que quoi, à tout moment, elle est dehors, quand je la rapproche, bon, ça se chamaille toujours, bon, je sais pas si c'est moi qui se comporte mal vis-à-vis de ma petite sœur, bon, je sais pas, que vous m'aidez un peu cela.
Alors, vous avez 25 ans, hein, c'est bien ça.
Oui.
Et elle a 20 ans.
Oui.
Voilà, et vous disputez souvent avec elle, quand vous lui faites des reproches, elle s'énerve. Alors, comment faire, docteur Lélia Benoît, effectivement, que peut-on conseiller à Davy?
Alors, quand on est l'aîné, on a souvent envie d'aider les plus petits, de leur expliquer, de leur faire partager notre expérience. Mais le problème, c'est que quand les petits grandissent, ils deviennent eux aussi adultes. Et là aussi, on va avoir une horizontalisation de la relation. C'est-à-dire que même à 20 ans, finalement, la petite sœur de Davy a autant de droits que lui et elle est autonome. Donc, il va falloir que Davy puisse changer sa relation avec sa petite sœur.
Et arrêter de lui faire des reproches?
Peut-être, oui. Exactement, parce que quand il lui fait du reproche, il la traite comme s'il était son père et comme si elle était une petite fille. Alors que le plus intéressant quand on a un frère ou une sœur adulte, c'est d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à nous, qui nous fait confiance, qui est curieux de savoir ce qu'on fait. Peut-être que Davy pourrait poser la question à sa petite sœur de qui elle voit quand elle sort, est-ce que la sortie était sympa, qui sont ses amis, à quoi est-ce qu'elle s'intéresse. Et finalement, créer une autre relation, qui est une relation d'adulte à adulte, où il va s'intéresser à elle, à ses centres d'intérêt, à ce qui se passe dans sa vie, et non pas essayer de contrôler cette vie.
Et finalement, docteur Lélia Benoît, comment faire de tous ces conflits de famille une force? Une fois qu'ils sont résolus peut-être, comment faire qu'ils nous aident dans notre vie?
Alors, effectivement, les résoudre, bon, il y en aura toujours d'autres petits, mais le plus important, c'est de toujours rester attentif à l'autre, c'est-à-dire ne pas l'enfermer dans un rôle qui a été le sien à un moment donné, comme celui de la petite sœur ou du grand frère, mais de voir qu'on change tous au cours de notre vie et qu'il faut sans cesse se redécouvrir et s'intéresser à la personne que l'on est et que l'autre est aussi.
Et ça veut dire qu'il faut accepter que ses frères et sœurs grandissent.
Exactement.
Et que ses enfants grandissent aussi.
Et qu'ils soient différents de nous. Et que même en étant très différents, en ayant des choses qui ne sont pas, des centres d'intérêt qui ne sont pas les nôtres, ils sont quand même intéressants. Ça vaut la peine d'aller leur poser la question sincèrement de ce qui les intéresse.
Et ces conflits nous aident à grandir également?
Tout à fait. Alors, un dernier point quand même que je voulais souligner par rapport aux conflits, c'est que il est important qu'ils ne dégénèrent pas. Et notamment, il y a eu quelques articles qui ont été publiés à l'heure actuelle sur le harcèlement au sein de la famille. C'est quelque chose qui est un tabou, dont on parle très peu, puisque ça va à l'encontre de l'utopie d'une fratrie heureuse. Quand on est parent et qu'on a plusieurs enfants, on souhaite que les frères et sœurs, malgré des chamailleries, s'entendent quand même bien. Et puis surtout, c'est très culpabilisant pour les parents, puisque quand ils se rendent compte qu'un frère ou une sœur chamaille, en tout cas dispute toujours l'autre, et qu'il y en a un qui se fait sans cesse martyriser, ça peut être culpabilisant puisqu'on se dit que on aimerait avoir vu plus tôt, on aimerait pouvoir contrôler. En tout cas, il est important de s'en rendre compte puisque les articles, en tout cas notamment celui de Dieter Folke qui a été publié dans le Lancet en 2015, montrent que quand même 40% des enfants sont victimes de brimades répétées au moins une fois par semaine chez eux par leurs frères et sœurs. Et c'est important puisque si ça se continue, ça se répète au cours du temps, ça devient le principal mode relationnel de ces enfants et ça peut mener à des dépressions à l'âge adulte, à beaucoup de difficultés.
Donc et c'est très important de dénouer ces situations-là.
Tout à fait. On parle beaucoup du harcèlement scolaire à l'heure actuelle entre les camarades de classe. Il faut savoir que ça commence à la maison, souvent.
Et entre frères et sœurs.
Et entre frères et sœurs. Et que quand on a toutes ces chamailleries entre frères et sœurs, on est à risque aussi d'être impliqué dans du harcèlement scolaire ensuite. Que l'on soit agresseur, victime de harcèlement scolaire ou les deux, parce qu'il faut savoir qu'on peut être à la fois agresseur et victime. Mais en tout cas, ces relations familiales ont un impact fort.
Pour reproduire ce schéma à la maison,
tout à fait. Tout à fait. Donc c'est important que les conflits ne dégénèrent pas.
Docteur Lélia Benoît, vous restez avec nous. Tout de suite, nous allons joindre un responsable de l'UNICEF qui lance un cri d'alarme dans les zones de conflit du monde entier. Les attaques contre les enfants ont pris des proportions alarmantes l'année dernière.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour Christian Michaud.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable protection à l'UNICEF en République démocratique du Congo. Vous êtes au Kasaï. Merci d'être en ligne avec nous. Alors, les enfants, cette année, en 2017, ont été particulièrement pris pour cible partout sur la planète.
Eh ben, il est vrai que, comme l'a très bien mentionné Emmanuel Fontaine, le directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF, il y a une recrudescence du nombre d'enfants qui sont utilisés dans les situations de conflit, ou pas uniquement utilisés, mais aussi affectés, et que ça devient inquiétant. Il y a de plus en plus de conflits où on se sert des enfants de différentes façons, et pour qui, évidemment, cela rend la vie difficile.
Utilisés comme bouclier humain, tués, recrutés pour combattre, également victimes de viols, de mariages forcés dans les conflits, notamment en Irak, en Syrie, au Yémen, au Nigeria, par exemple. En 2017, l'organisation Boko Haram a contraint au moins 135 enfants à commettre des attentats suicides à la bombe. Quelle est la situation au Kasaï où vous êtes ? Ah, la ligne semble avoir été coupée. Christian Michaud n'est plus avec nous. Effectivement, alors je vais donner les chiffres effarants pour le Kasaï en RDC, en région donc du centre de la RDC qui est en conflit. Les violences ont chassé de chez eux 850 000 enfants, plus de 200 centres de santé, 400 écoles ont été attaquées. Donc même les écoles peuvent être la cible de violences. Donc l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Il faut protéger ces enfants. Docteur Lélia Benoît, quelle conséquences psychologiques, voire psychiatriques, des violences peuvent-elles avoir sur les enfants qui en sont victimes ?
Alors, on parle des violences de guerre.
De guerre, effectivement. Voilà. On rentre dans un autre
sujet. Alors effectivement, pour les enfants qui sont victimes de violences de guerre, il peut y avoir des effets traumatiques de très longue durée, notamment un état de stress post-traumatique et une grande difficulté à développer leur empathie, c'est-à-dire leur capacité à s'intéresser aux autres. Et l'état de stress post-traumatique peut se caractériser par des cauchemars, par une sidération, par une grande difficulté à avoir accès à ses émotions. Et dans certains cas, c'est des symptômes qui vont suivre ces enfants jusqu'à l'âge adulte et être responsables de dépression, de dépendance, d'addiction à des substances, à l'alcool notamment, ou aux drogues. Enfin, ce sont vraiment des jeunes vies qui sont brisées, pour ainsi dire. Et parfois les symptômes à l'âge adulte sont difficiles à repérer. Et donc on peut avoir des adultes qui ont été victimes pendant leur enfance d'abus, de violences, de maltraitance, qui restent mal diagnostiqués et qui en souffrent longtemps.
Et on peut voir aussi l'émergence de troubles psychiatriques chez ces enfants.
Tout à fait, des dépressions importantes, un repli social, jusqu'à un syndrome très important de repli relationnel total avec des enfants qui peuvent se laisser mourir.
Et quelle prise en charge alors dans ces cas-là ?
Alors avant tout, le plus possible, limiter les conflits, c'est vraiment une question géopolitique importante. Et évidemment, les équipes humanitaires ont un rôle à jouer très précoce et en intervenant au plus vite auprès...
Avec un accompagnement psychologique ?
Oui.
Psychosocial ?
Oui, qui s'organise avec les communautés locales, avec les populations, puisque la communauté tout autour de l'enfant va lui permettre de se réintégrer, d'avoir cette insertion sociale et d'avoir des liens qui sont durables.
Pour éviter des répercussions sur toute la vie future de l'enfant. Merci docteur Lilia Benoît d'être venue participer à cette émission, d'avoir répondu aussi à toutes les questions des auditeurs, à leurs demandes de conseils, des questions nombreuses et variées. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké, Ophélie Lassène, Sigrid Azerwal. Merci aussi à David Brockway et merci à vous tous pour votre écoute, pour vos questions, pour vos témoignages. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application RFI Pure Radio et puis sur notre site internet rfi.fr. Demain, dans Priorité Santé, pour la dernière émission de la semaine, nous parlerons du cannabis. 4% de la population mondiale en consommerait, notamment de nombreux adolescents. Quels sont les dangers de cette drogue ? À partir de quel moment peut-on parler d'addiction ? Et puis, quels moyens de prise en charge ? Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.